face to replace the feet. We walked like dead bouquets, does look good as you did.
Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 6h ici à Paris, 2h de moins en temps universel. Et c'est le journal international de Jeanne Bartoli. Bonjour Jeanne. Et
bonjour Vincent, bonjour à tous. Dans ce journal, l'allocution à la nation américaine de Donald Trump. Pas de grande annonce cette nuit. Le président américain répète que les États-Unis ont porté un coup terrible au régime iranien et que le conflit touche à sa fin. Sur le terrain, l'Iran a tiré de nouveau cette nuit des missiles vers le territoire israélien. Donald Trump qui appelle par ailleurs ses alliés de l'OTAN à s'occuper du détroit d'Ormuz. Emparez-vous-en, protégez-le, servez-vous-en. Des déclarations qui ont fait bondir le baril de Brent ce matin, alors que les conséquences du blocage du détroit sur l'économie mondiale sont toujours plus visibles. Reportage en Mauritanie dans ce journal. Lancement réussi pour la mission Artemis. Après plusieurs déconvenues, la NASA a lancé avec succès cette première mission habitée autour de la Lune depuis 1972. Et puis ce n'est pas rien. Au Japon, des millions de seniors sont privés de la 3G depuis hier. Le dernier opérateur de téléphonie mobile de l'archipel Schiphol qui commercialisait ce service-ci a mis fin. Il faudra donc investir dans un smartphone pour avoir accès à la 4 ou à la 5G. Aux États-Unis, pas de grande annonce donc cette nuit lors de l'allocution à la nation de Donald Trump, la première depuis l'annonce du début de la guerre en Iran. Le président américain a finalement repris des arguments répétés ces derniers jours, affirmant que le conflit touchait à sa fin, qu'il restait encore 2 ou 3 semaines de guerre. Les États-Unis sont proches de remplir leurs objectifs, dit Donald Trump. Peu après ces déclarations, l'Iran a lancé une nouvelle salve de missiles sur le territoire israélien. Des sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans tout le nord d'Israël. Le pouvoir iranien qui continue donc d'afficher sa résilience. Le régime organisait d'ailleurs hier un grand rassemblement pour les funérailles d'un haut gradé des gardiens de la Révolution. Reportage à Téhéran, signé Siavosh Ghazi.
Mariam, qui refuse de porter le voile islamique, est venue de Karaj pour participer à la cérémonie pour rendre hommage au général Tangsiri, le commandant en chef de la force navale des gardiens de la Révolution, mais aussi rejeter toute idée de négociation et de dialogue avec les États-Unis.
C'est la cérémonie funéraire du général Tangsiri. Nous vengerons le sang de tous nos martyrs, du général Tangsiri et de tous les autres, du plus petit enfant de 3 jours à notre guide suprême tombé en martyr. Je pense que l'Iran a déjà gagné. Le reste du monde le verra aussi bientôt. Tout le monde rigole des déclarations de Trump. Les Américains sont eux-mêmes partisans de l'Iran. Y a-t-il une meilleure victoire que cela ?
Un avis partagé par Sarah, une iranienne d'une 30aine d'années, très religieuse, qui est également venue avec sa mère, sa sœur, ses 2 frères et leurs enfants. Elle est certaine de la victoire de l'Iran.
D'une manière générale, il ne faut pas faire très attention à ce que dit Trump. Si vous regardez les gens, tout le monde a un sentiment de victoire. Nous ne sommes pas un peuple qui accepte de se plier. Ils n'arriveront pas à nous faire plier.
Dans la foule, tout le monde refuse tout dialogue et toute négociation avec les États-Unis, malgré les affirmations de Donald Trump. Siavosh Ghazi, Téhéran RFI.
Et le régime iranien a dénoncé hier des demandes maximalistes et irrationnelles des autorités américaines, démentant également avoir réclamé un cessez-le-feu, comme l'avait pourtant affirmé Donald Trump en amont de son allocution lors de laquelle le président américain s'en est pris une énième fois à ses alliés de l'OTAN concernant le détroit d'Ormuz. Message on ne peut plus clair, écoutez.
The United States.
Les États-Unis n'importent presque pas de pétrole via le détroit d'Ormuz et ils n'en importeront pas à l'avenir. Nous n'en avons pas besoin. Nous n'en avons jamais eu besoin et nous n'en avons pas besoin aujourd'hui. Et les pays du monde qui reçoivent du pétrole via le détroit d'Ormuz doivent s'occuper de ce passage. Ils doivent le protéger. Ils doivent s'en emparer et le protéger. Ils peuvent le faire facilement.
Et les déclarations de Donald Trump qui n'ont pas rassuré les marchés. Les cours du pétrole sont remontés ce matin. Le baril de Brent a grimpé de plus de 4%, repassant au-dessus de la barre des $105, alors que les marchés asiatiques viraient au rouge. Les conséquences économiques de la guerre, du blocage du détroit d'Ormuz, toujours plus visibles en Mauritanie, par exemple. Les autorités tentent de réduire les dépenses publiques et parmi les mesures de sobriété, la baisse de l'éclairage public, parfois même coupé dans des zones urbaines. À Nouakchott, cette pénombre forcée change le quotidien des habitants. La nuit est désormais synonyme de danger. Reportage au quartier PK7, Oumar El Hadjtiam.
Les lampadaires sont éteints, transformant les artères autrefois animées en zone d'ombre. Pour Kadia, une habitante du quartier, cette décision est vécue comme un abandon.
Sans éclairage, c'est le danger. En plus, c'est le PK le plus dangereux, le PK7. Alors, bienvenue aux agresseurs et autres. Et limitez beaucoup les sorties, surtout les sorties inutiles, parce que c'est une porte ouverte aux agressions et autres.
La mobilité nocturne, autrefois banale, devient un risque calculé. Kadia, comme beaucoup de Nouakchottois, a tiré un train sur certains quartiers de la capitale. Smaïl Diagne, un habitant du quartier Nekté.
Je ne compte même plus m'aventurer dans des zones comme Belle. Avant, je me sentais en sécurité. Je pouvais me rendre à n'importe quel moment de la nuit. Mais aujourd'hui, je n'y pense même plus. L'obscurité a changé mon regard sur la ville.
De l'autre côté de la ville, les autorités, elles, justifient cette mesure par la nécessité économique. Mais face à la grogne des citoyens, à la montée de l'insécurité ressentie, la question se pose. Le prix des économies d'énergie ne serait-il pas trop élevé pour la tranquillité publique ? Oumar El Hadjtiam, Nouakchott, RFI.
Et puis c'est une inquiétude des services de renseignement dans le sillage de la guerre au Moyen-Orient, des attentats. En France, le lien entre l'attentat déjoué contre le siège parisien de la Bank of America et la République islamique d'Iran a été officiellement fait par les autorités, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Il soupçonne ouvertement un groupuscule proche de l'Iran d'être le commanditaire. L'organisation a revendiqué ces derniers jours plusieurs attaques contre les communautés juives en Belgique, au Royaume-Uni ou encore aux Pays-Bas. Mais quelle est la réelle capacité de l'Iran à organiser des attentats projetés en Europe ? Élément de réponse ce matin avec Noé Pignède.
Depuis 1979, la République islamique aurait organisé près de 200 opérations extérieures dans le monde, des assassinats et des attentats pour la plupart déjoués. Mais entre 1985 et 86, une vague d'attaques endeuille la France et ses actions terroristes se poursuivent ces dernières années. Marc Ecker, directeur exécutif de l'IFRI et spécialiste des questions de terrorisme.
Généralement, les cibles, ce sont des opposants iraniens. C'est le cas de l'attentat qui avait été déjoué à Villepinte en 2018 et pour lequel une personne qui avait un statut diplomatique iranien a été condamnée à une peine lourde. Mais ça peut aussi être des intérêts liés soit à l'État d'Israël, soit aux États-Unis en l'occurrence.
Plusieurs tentatives d'attentats en Europe ces dernières semaines ont été revendiquées par un groupuscule pro-iranien. Mais rien n'indique à ce stade que Téhéran les a commandités. Thierry Coville est spécialiste de l'Iran.
Qu'est-ce que ça leur apporterait vraiment ? Ça peut quand même conduire à accroître la coalition contre eux, puisque là, ça se passe sur le sol européen. Ils savent bien que c'est les États-Unis et Israël qui les ont attaqués. Donc, je ne vois pas trop en quoi ça leur apporte quoi que ce soit dans leur stratégie de guerre asymétrique actuelle.
Certains analystes dans le monde arabe mettent en garde contre un risque d'attaque organisée par des services de renseignements étrangers, puis attribuée à tort à l'Iran, afin de rallier les pays ciblés à la guerre israélo-américaine.
Noé Pignède. Et puis l'actualité en France, marquée par ces déclarations du nouveau maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, qui dénonce une société de plus en plus raciste et appelle dans un entretien à l'agence France Presse à la fermeture de la chaîne CNews, sur laquelle des propos polémiques le visant ont été tenus, alors qu'il est victime d'une campagne de haine raciste. Le maire La France Insoumise de la deuxième plus grande ville d'Île-de-France après Paris estime que l'ARCOM doit être beaucoup plus sévère vis-à-vis de la chaîne et que la justice doit être beaucoup plus franche. Et depuis quelques heures, l'équipage d'Artemis 2 est en orbite terrestre. C'est fait, lancement réussi pour le premier vol habité vers la Lune. Depuis 1972, les quatre astronautes se sont envolés avec succès tout à l'heure pour une mission test pour ouvrir la voie, un retour sur le sol lunaire en 2028. Nous partons pour l'humanité tout entière, a notamment déclaré quelques minutes avant le décollage l'astronaute canadien Jeremy Hansen. Récit de ce lancement réussi, ce sera dans le jour journal de 7h. Direction à présent l'Ukraine. Depuis plusieurs mois, la Russie intensifie ses frappes sur le réseau ferroviaire et ses attaques ne se limitent plus aux infrastructures. Elles visent aussi les trains de passagers en gare ou en mouvement, entraînant des évacuations d'urgence en plein milieu des trajets et des voies pour des centaines de passagers. Outre des retards de plusieurs heures, le danger de mort est réel pour toutes les personnes à bord. Notre correspondante en Ukraine, Emmanuel Chaz, a recueilli ce témoignage d'un bénévole allemand évacué en pleine nuit pendant son voyage.
Aujourd'hui en Ukraine, chaque trajet en train s'effectue sous la menace de frappes de drones kamikazes. Et dans la nuit du 31 mars au 1er avril, Björn Milbrad, un Allemand qui vient régulièrement en mission humanitaire à Kharkiv, en a fait l'expérience.
Vers 1h du matin, entre Kharkiv et Poltava, dans l'est de l'Ukraine, le train a dû être évacué d'urgence, à même les voies. Aussitôt après que les passagers avaient quitté le train, on a entendu le son caractéristique des Shahed, la défense aérienne. Et puis un impact.
Björn Milbrad a tout enregistré.
Les employés du train nous ont fait courir dans les bosquets les plus proches. Et après environ une heure, on a pu reprendre le train qui est arrivé à bon port à Kiev au matin.
Björn Milbrad a pu continuer son trajet jusqu'en Pologne. Pour les Ukrainiens, ces évacuations de trains sont de plus en plus fréquentes et elles font partie de leur quotidien. Alors qu'au Kryazanitsia, l'opérateur ferroviaire ukrainien tente d'assurer les transports passagers dans des conditions plus dangereuses chaque jour. Depuis 2022, la Russie a lancé plus de 5000 attaques sur le réseau ferroviaire, dont 500 entre janvier et mars de cette année. Emmanuel Chaz, qui est RFI.
En plus bref, dans l'actualité, la présidente vénézuélienne par intérim, Delcy Rodriguez, salue la décision de Donald Trump de lever les sanctions à son encontre. Washington a en effet retiré son nom de sa liste noire alors que le régime vénézuélien multiplie les gestes de bonne volonté vis-à-vis des États-Unis après des années de confrontation sous l'ère Nicolas Maduro, président déchu par l'armée américaine lors d'une opération militaire en janvier dernier. Allez, enfin, au Japon, un demi-million de seniors sont en passe d'être privés d'Internet, oui, car ils utilisaient jusqu'alors un téléphone à clapet et donc la 3G. Or, le dernier opérateur de téléphonie mobile de l'archipel qui commercialisait ce service y a mis fin hier au profit de la 4 ou de la 5G. Et ce n'est pas rien dans le pays qui compte le plus de personnes âgées dans sa population. À Tokyo, Bruno Duval.
L'inquiétude, c'est ce qu'éprouve ce gérant d'une boutique de l'opérateur de téléphonie mobile NTT Docomo, qui, ces dernières semaines, a patiemment appris le maniement du smartphone à plusieurs dizaines de clients âgés, contraints de dire adieu à leur cher téléphone à clapet, ce modèle étant très rarement compatible avec la 4 ou la 5G.
On ne l'imagine pas, mais en fait, pour la plupart des personnes âgées, ce passage au smartphone est très compliqué et elles découvrent vraiment un nouveau monde. Et puis, beaucoup de clients ne nous ont pas encore contactés, car visiblement, ils ne sont pas au courant de la fin de la 3G. Et ça, ça va poser un gros problème, car dans les jours à venir, leurs proches ne pourront plus les joindre.
Ces deux retraités ont réussi à franchir le pas et s'en félicitent.
J'ai préféré m'y prendre bien à l'avance, car changer de téléphone me stressait énormément. Ce fut laborieux, mais en fin de compte, ça va. En gros, le smartphone, je gère. C'est bien, il faut vivre avec son temps.
Le petit clavier de mon téléphone à clapet, avec ma mauvaise vue, ça devenait compliqué. Donc, ce changement, c'est vraiment gagnant-gagnant.
Docomo lança la 3G en octobre 2001, et à l'époque, c'était une grande première mondiale, donc elle fit sensation. Un quart de siècle plus tard, il a toutefois jugé qu'il était temps de tourner la page. Bruno Diva, Tokyo, RFI.
Et Tokyo, où il est 13h, passé 13 minutes, 6h13 ici à Paris.
RFI, toute l'actualité.
Jeanne Bartoli.
Et vous restez avec nous, RFI, au programme des 20 prochaines minutes. L'avenir de Viktor Orban, qui s'écrit le 12 avril prochain, à celui qui affiche ouvertement son entente avec le Kremlin. Un cinquième mandat consécutif à l'issue de ces élections en Hongrie. On appellera aussi Ramallah dans un instant, où notre correspondante a recueilli les réactions, les craintes des familles de prisonniers palestiniens détenus dans des prisons israéliennes, et ce après la loi adoptée à la Knesset et qui élargit le recours à la peine de mort. L'invité culture d'RFI ce matin, le jazzman français Biréli Lagrène, qui revisite dans son dernier album le jazz américain. Et puis, comme tous les matins, le conseil santé, ce sera avec Caroline Paré. Le 12 avril prochain, un cinquième mandat consécutif en Hongrie. L'avenir de Viktor Orban s'écrit ces jours-ci et tous les scénarios sont sur la table. Malgré un bilan économique très contrasté, Viktor Orban, proche du Kremlin, pourrait gagner le scrutin et poursuivre ainsi ses attaques pour faire taire la poignée de médias indépendants qui subsistent dans le pays. La presse libre se prépare au pire. Reportage, Florence Labruyère.
Bonjour.
C'est l'effervescence dans les bureaux du journal Telex, un journal web indépendant fondé il y a 6 ans. La campagne électorale bat son plein et elle n'est pas facile à couvrir. Martin Carpati est directeur de la rédaction.
It's always a moment of excitement.
C'est toujours une période excitante. Il y a plein d'événements, plein de sujets à couvrir. Les élections, c'est toujours un moment.
n'importera pas. Le froid de ce monde sans te revoir. Et comme un oiseau mort, je m'envolerai, je m'envole vers mon frère. Où vivent les inconsolables, ceux qui de toi se sont éloignés.
Pendant que Jennifer vomit, et l'autre pédé Dracula peut venir me sucer. C'est lui qui été gangster, mais dans des capsuleurs. C'est toujours la même histoire.
Le même cinéma qui recommence tous les soirs.
Une silhouette qui émerge du noir, qui saute au cou en plein de la gueule et en hurlant.
À voir.
Dans les rues désertes, c'est le cauchemar.
Les gens crient et s'enfuient quand arrive mon armée crevard.
Et si tu me trouves déjà bizarre, allez, on en reparlera quand tu me verras 28 litres plus tard.
Prends ta gnôle et dégage.
Ça y est, je crois que ça vient. Tu commences à saisir ce que je veux dire. Et quand tu sauras la vérité, tu auras tout bon, mon pote.
Ah bon, allez, vas-y, raconte.
Les yeux exorbités, injectés de sang et le visage blême. Je pourrais boire encore plus, mais j'ai la flemme. Je m'essuie la bouche dure verte, la main pendant que les dernières bouteilles crèvent. Et je rejoins mon cercueil quand le soleil se lève. J'ai vidé les briques, fait les comptes de la crique. Et ma tension retombe à 8-6 quand le jour réplique. J'ai été abdominable, j'ai bu tout le sang de la terre. Et j'ai signé un pacte avec le diable. Une canette vide, c'est ma vision de l'enfer. Et je fonce vers le prochain bistrot à tombeau ouvert. Et en guise d'épitaphe, le jour où je remballe, tu peux inscrire Rest in Peace sur ma bière tombale. C'est toujours la même histoire.
Le même cinéma qui recommence tous les soirs.
Une silhouette qui émerge du noir, qui saute au cou en plein de la gueule et en hurlant.
À voir.
Dans les rues désertes, c'est le cauchemar.
Les gens crient et s'enfuient quand arrive mon armée crevard.
Et si tu me trouves déjà bizarre, allez, on en reparlera quand tu me verras 28 litres plus tard.
28 litres plus tard. 28 litres plus tard. 28 litres plus tard.
Gentle tree.